Okay. Donc c'est à la fin du livre de Shemot. Vous avez là des livres. Je peux vous aider à trouver si vous voulez. Voilà, un. Quelqu'un veut. Des fois, c'est dans certaines éditions après Vaïkra. Dans cette édition, c'est après Vaïkra. Quelqu'un veut. Quelqu'un veut en français, ensemble. Un. Ok, alors avant de commencer, là, dimanche, on va faire une journée au centre FLEG à partir de 10h30 jusqu'à 18h. On va essayer de commencer à Megillat Esther au début, et puis on avance. Puis on verra à 18h où est-ce qu'on en est. Voilà. C'est, je trouve, une excellente introduction. Introduction à Pourim, on a fait ça des années, n'est-ce pas? On a déjà fait des journées d'études sur la Megillat Esther, c'est super. Alors voilà, il y aura une petite bouffe à midi, café, thé, et puis on y va. Voilà. Alors nous, par contre, on ne va pas commencer au début de la Megillat Esther. On va commencer au chapitre Bet, Pasouk E. On va aborder un point, parce que la Megillat Esther, c'est un point, c'est un livre très très particulier, tellement particulier que Rambam dit que lorsqu'il y aura les temps messianiques, il ne restera que les cinq livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Point. Le reste, voilà, c'est comme la charte de l'OLP, caduc. Voilà, qui se rigole.
C'est Rafat qui est sorti
ce ouais. Alors, par contre, il y a une dimension éternelle à la Megillat Esther. Ce qui donc met en relief le côté absolument unique de ce texte. Alors, on va commencer chapitre Bet, Pasouk E. On va voir quelques versets et on va mettre en relief un point. Chapitre Bet, Pasouk E, donc chapitre 2, verset 5. Voilà. Donc, je mets le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, avant, Achashverosh, Assuérus, a fait un grand festin. Et pour montrer sa gloire, pour bien asseoir son empire, et à la fin de son festin, il était pompette, il a dit à la reine de venir, qu'elle vienne, montrer comme elle est belle, elle a dit mais qu'il aille se faire voir celui-là, il n'était pas content du tout, et il a envoyé au crocodile. Enfin, on ne dit pas à quoi. C'est pas écrit dans le texte qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais on a compris qu'elle n'est pas revenue. De là où elle est allée, elle n'en est pas revenue. Voilà. Ce étant, après, il est tout triste. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout triste. Alors, il y a ses pages, je lui dis oh, sire, il faudrait peut-être vous trouver une nouvelle reine. Oh, quelle bonne idée! Alors on va envoyer dans tout l'Empire des émissaires pour trouver les plus belles femmes de l'Empire. On va lui amener. Ok. Et c'est là que ça commence. Chapitre Bet, verset E. Chapitre 2, verset 5. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira ou Shemo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini.
un homme Yehoudi.
Qu'est-ce que ça veut dire Yehoudi?
De Judée.
Certes. Oui, c'est bien. Un homme de Judée était à Suse, la capitale. Son nom, Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, homme de Yémini. Qu'est-ce que c'est Yémini?
C'est Benjamin.
Alors, voilà. Ça, c'est vraiment. Ça commence bien. C'est vraiment Pourim, quoi. C'est où la place de l'étoile? C'est par là. Ouais, c'est. Tu connais, c'est où la place de l'étoile? C'est là.
Non, je ne sais pas.
Ah là 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 là. Odile, il faut lui faire son éducation, hein.
C'est trop tard.
ça vient de quoi? C'est quoi? C'est où la place de l'étoile? Comment?
C'est le
premier livre de Modiano. Ouais, que, je ne sais pas, il avait 20 ans quand il a écrit ce livre extraordinaire, La place de l'étoile. Il aurait dû écrire que ce livre d'ailleurs.
Oh non.
Non, bah.
Alors, non,
pas.
C'est
un
des meilleurs écrivains français.
Ah bon. Mesdemoiselles, vous avez lu La place de l'étoile de Patrick Modiano? Non, c'est bien.
Non, mais. Moi, alors, lu, mais je ne me souviens pas de ça.
Ah, c'est le clou. C'est où la place de l'étoile? Elle est là. Alors, bon, alors là, c'est pareil. C'est où la place de l'étoile? Elle est là. Et alors, il est de Yehuda ou il est de Binyamin? On ne sait pas, là, on ne comprend pas. Ish Yehudi à Beshushan Abira, donc c'était un homme, Yehudi, tu viens de dire Ariel, de Yehuda, voilà, qui était à Suse, la capitale, son nom, hein, homme de Yémini, Yémini, on voit, ça veut dire de la tribu de Binyamin, de Benjamin, on ne sait pas, hein. Alors, il y a des discussions dans la Gemara, là-dessus, il y a plusieurs discussions, plusieurs avis pour expliquer ça. On va voir un peu plus tard, hein. On laisse ça au stand-by. Le fait est, c'est que...
C'est la première apparition du mot du juif. Non,
c'est vrai. C'est juif, ça veut dire Yud, quoi. Hein. Ça veut dire qu'il vient... Alors, effectivement, le Rashi dit ça. Hein. Rashi dit ça. Rashi prend l'option, comme vous dites exactement... que parce qu'il a été exilé avec la tribu de Yehuda, avec le roi de Yehuda, c'est pour ça qu'on l'appelle Yehudi, mais en vérité, il est de Binyamin. Ish Yemini, mais Binyamin Aya. Car Pshuto, c'est son sens simple. Verabotenu darshu meshedarshu, mais nos maîtres expliquent ce qu'ils expliquent. Ça veut dire, Rashi nous dit, va voir, il y a plein d'autres explications. Moi, je donne le sens simple. Ce Yehudi, ça veut dire, c'est de la tribu de Yehuda. Et d'ailleurs, nous sommes appelés juifs, ou dans d'autres langues, Yud, je ne sais pas quoi, parce que depuis l'exil des 10 tribus, que Sanhérib a exilé les 10 tribus, le gros du peuple juif vient de la tribu de Yehuda. Donc quand ils sont arrivés à Babylone avec Nabucodonosor, le gros du peuple juif, c'était de la tribu de Yehuda, quand bien même lui-même n'était pas la tribu de Yehuda. Ça, Rachidi, c'est le sens simple. Mais il y a d'autres explications que nous allons voir dans la suite. Bien. Alors, il y a aussi, si on nous dit ses ascendants, si on nous dit les ascendants de Mordechai, il y a un problème. Que Mordechai, fils de Yaïr, d'accord, fils de Shimi, fils de Kish. En vérité, Kish et Shimi étaient des générations avant. C'était bien plein de générations. C'est qui Shimi?
Shimi Ben Guerra.
Oui, c'est qui Shimi Ben Guerra?
C'est quelqu'un qui a voulu tuer David. Non?
Comment?
Il n'a pas voulu tuer David.
Non, il a maudit David. On va voir ça. On va voir ce soir. Voilà. Mais alors là, il y a des générations entre Mordechai, parce que Mordechai est après la destruction du premier temple. Et Shimi est avant la construction du premier temple. Donc il y a 400 ans entre Yaïr et Shimi. Mm-hmm. Et Kish, c'est qui, Kish? Comment? C'est son père, c'est son papa, Shaul ben Kish. Voilà, très bien. Shaul ben Kish. Shaul, donc Kish est le père de Shaul. Voilà. Donc on comprend pas bien la suite des ascendants. En vérité, Mordechai ben Yair. Pourquoi on remonte tout d'un coup à Shimi et à Kish? Donc dire que Kish, ça veut dire, il nous dit par là que c'est un descendant de Shaul. Et un descendant de Shimi, mais en vérité, il y a 10 personnes qu'il aurait fallu nommer entre. 10, 15, je sais pas exactement. Plein d'autres personnes. Ok? Bien. Alors maintenant, on passe au chapitre Guimel, verset Aleph. Donc, Mordechai, et on va voir dans la suite, donc c'est le tuteur de Esther. C'est le tuteur de Esther. Et pourquoi? Parce que Esther était orpheline de père et de mère. Et finalement, nos maîtres disent que Mordechai a épousé Esther. Voilà. Bien. Ce étant, on passe au chapitre Guimel, chapitre 3, verset 1. Achar advarim haele gidal ameler achashverosh en aman ben amdata agagi vaynaseu vayasem et kiso mal kol asarim asherito. Achar advarim haele,
c'est un texte.
Chapitre Guimel. Hein. C'est à la fin. Achar advarim haele, après ces choses-là, chapitre 3. 3 en français, c'est 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Non, c'est pas bon. Ça va pas, 3. Non, c'est 2 plus 1. Alors. Chapitre 3, verset 1. Après ces choses-là, Gidal Ameler Arashverosh, le roi Assuérus, a grandi Aman, fils d'Amdata, l'Agagéen. Voilà. Vaïna Seou, il a élevé, Vaïasem et Kiso Malkol Asarim Asherito, il a placé son trône au-dessus de tous les princes qui sont avec lui. Donc le roi a tout d'un coup fait une promotion incroyable à Aman, fils d'Amdata, l'Agagéen. Qu'est-ce que ça veut dire l'Agagéen?
C'est sa nationalité.
Comment?
Sa nationalité.
Plus précisément.
Son ethnie.
D'accord, ça c'est, on peut pas dire le contraire, mais ça fait référence à Agag, à quoi? Au roi Agag, c'est quoi? C'est qui que, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Agag? Ça fait un peu Pourim à Gagi, ça fait bien, ça fait ambiance de Pourim à Gagi. Seb.
Aucune idée.
Oh, aucune idée. Oh là là. Alors, oui, c'est que Shaul, donc l'ancêtre de Mordechai, puisqu'on a vu il descend de Kish, etc. Shaul, le roi, premier roi du peuple juif, a fait une faute qu'il a évincée. C'est quoi? C'est qu'il a eu comme mission d'exterminer les Amalécites d'exterminer la Malécite. Et il a fait la guerre contre la Malécite. Il a triomphé, il a gagné cette guerre. Mais il a épargné le roi d'Amalécite qui s'appelait Agag. Et Dieu parle au prophète Samuel et lui dit « Va voir Shaoul, car par là il est évincé, il perd son trône. » Et il le dit à Shaoul, et le prophète Samuel, Shmuel, prend une épée et décapite Agag. Alors, on va voir que c'est très très important que le verset nous dise que Aman est un descendant d'Agag, comme on va voir dans la suite. Alors, Achar Advarim Ale, après ces choses-là, le roi Assuérus, donc grandit de manière stupéfiante Aman. Après ces choses-là, c'est après quoi ?
Après le banquet, après que le...
Ah, les mecs, il faut venir à la journée d'études de dimanche hein, pour bien connaître la Megillah, hein, la joie.
Après c'est... que Mordechai l'ait provoqué en se mettant devant la porte,
non ? Non, il a écouté, c'est le complot, là.
Ah, voilà ! Après le complot de Bigtan et Teresh, voilà, que juste avant, il y a eu un complot. Alors finalement, Esther, on n'a pas vu ça, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre Bet ? Deuxième chapitre, c'est que Esther a été nommée. Esther a été nommée la favorite de l'empereur, et voilà, et Mordechai faisait les 100 pas devant le palais pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec Esther. Bon, ça on a vu l'année dernière, je pense. Qu'est-ce qu'il faisait les 100 pas, et il a entendu que les deux gardiens du perron, Bigtan et Teresh, fomentait un complot contre l'empereur. Et il a fait savoir à Esther, et Esther l'a dit que Mordechai, le juif, m'a dit qu'il y avait un complot contre vous. Et ça, tout le miracle va se passer autour de ça. Une fois finalement, c'est ce que Rashi dit, que les prémices de la délivrance sont en place, eh bien, le méchant arrive. Voilà. Car Kadosh Baruch Hu ne veut jamais... ne cherche pas à détruire le peuple juif. Il met toujours le remède avant la plaie. Donc il élève Aman. Verset Bet. Vechol avde ameler asher b'char ameler korim u'mishtaravim l'aman. Qui chène si valo ameler, au Mordechai, lo icha velo ishtachavi. Encore une fois, et tous les serviteurs, voilà des textes là pour les arrivants. Donc, Megillat Esther, chapitre Gimel, verset Bet. Tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi. Ça veut dire qu'ils sont à la porte du roi. La porte, je ne sais pas pourquoi, mais ça veut dire la cour. Oui. Comme par exemple dans l'Empire Ottoman, on appelait la sublime porte, non ? La sublime porte. Pourquoi on appelle la cour des pays orientaux la porte ?
Il faut y rentrer.
Comment ?
Il faut y rentrer.
T'as fait la porte, quoi.
On passe par la porte.
C'est bizarre, non ? Tu vois, dans le texte, là, on dit la porte. La porte du roi, c'est la cour royale. Donc la cour, c'est tout un univers. Hein.
C'est comme si c'était inaccessible, en
fait. Ah, d'accord. La porte, donc, ça veut dire que... C'est comme la porte, style... l'armoire de la porte de Barbe Bleue, quoi, ça veut dire. Faut pas ouvrir cette porte, quoi. On a envie d'ouvrir la porte. Mais... Alors, ok. Donc, tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi, donc à la cour du roi, se courbent et se prosternent à Aman, Kichen Sivalo Ameler, car ainsi a ordonné le roi à son sujet. C'est l'empereur a ordonné qu'on se courbe, on se prosterne à Aman. C'est pas Aman qui lui-même a pris l'initiative. Au Mordechai, lo icha velo ishtachave. Alors j'attends qu'on me traduise bien. Mordechai, lo icha velo ishtachave.
Il ne s'est pas plié, il ne s'est pas prosterné.
Désintégration immédiate. Une autre réponse.
Ça, je ne viens pas.
Comment? Oui. Oui.
Ne se pliera pas et ne se prosternera pas au futur.
Ah, c'est au futur. Ah, j'ai pas amené des bonbons. Je sens, ça manque ce soir.
Parce que, ouais, il
y a qui mérite. Ah, ça manque les bonbons, là. Ah, bon, ok. Blin Eder, la prochaine fois, j'amènerai le matériel pédagogique. En tout cas, bien, c'est un futur. Ouais. Mordechai ne se courbera pas et ne se prosternera pas. C'est au futur. Voilà. Car ainsi il a ordonné, et Mordechai ne se courbera pas et se prosternera pas. Regardons Rashi. Rashi, donc très important. Rashi, le commentaire de Rashi, bon, dire qu'il est important, c'est un truisme, n'est-ce pas? Mais sur la Megillat Esther, il est particulièrement brillant. Verset bête. Korim ou Mishtar Rabim, donc tous les serviteurs se courbent et se prosternent. She'asa Atzmo Eloha. Le Fikar ou Mordechai Eloïcha Velo Mishtar Rabim, parce qu'il s'est fait lui-même divinité. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Le roi a ordonné qu'on se prosterne à Aman. Mais Aman en a rajouté une couche. Il s'est lui-même rajouté. Il s'est présenté comme étant une divinité, un dieu. Alors, il dit, Rachidi, c'est pour ça que Mordechai lo icha velo ishtachave. Donc il y a un glissement, c'est que on pourrait dire que l'empereur a besoin d'asseoir son pouvoir, donc il met un premier ministre brillant, que sais-je, et dit on se prosterne au premier ministre. Bon, au chancelier. Mais pourquoi Mordechai ne se au futur? Parce que je ne me courberai pas, je ne me prosternerai pas, parce qu'il en a rajouté une couche, parce qu'il s'est fait divinité. Il s'est fait une divinité. Voilà. Regardons la suite du verset. Vayomru, verset guimel. Michel, vous voyez les versets? C'est bon? Verset guimel. Vayomru avdei ha-meler, asher b'shar ha-meler le-Mordechai. Madoua ata over en mitzvat ha-meler. Ils dirent, les serviteurs du roi qui se trouvent à la porte du roi à Mordechai. Pourquoi enfreins-tu l'ordre royal? Vayoi ke omram elav yom vayom velo shama alehem. Alors regardez, c'est intéressant parce que dans le verset Guimel, ils lui disent, mais il n'y a pas la réponse de, Mordechai. Je reprends. Ils dirent, les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi à Mordechai, pourquoi enfreins-tu l'ordre royal? Ce fut quand il lui disait, jour après jour, Velo shama aleem, et il ne les écoutait pas. Vayagidu le'aman lirot ayamdu divrei Mordechai ki gid lahem asher hu yehudi. Alors là maintenant il va dire pourquoi. Ce fut quand ils leur dirent jour après jour, il ne les a pas écoutés. Vayagidu le'aman, et ils rapportèrent à Aman pour voir est-ce que tiendront les paroles de Mordechai, car il leur a dit qu'il est juif. Il leur dit qu'il est juif. Donc ça veut dire, il leur dit qu'il est juif, oui, Rashi, Est-ce que tiendront les parents de Moraï à Omer, Shelo, Ishtarabé, Olamit? Il leur a dit, je ne me prosternerai jamais. Car il est juif. Veuzar à la Vodat Elilim. Et il est enjoint de ne pas se soumettre à l'idolâtrie. Alors il y a plusieurs questions. Premièrement, comment ça se fait qu'il n'y avait que Mordechai qui ne se prosternait pas? Il y avait peut-être d'autres juifs dans le coin. Comment? Mais sauf votre respect, c'est, vous êtes déjà un petit peu dans Pourim, là, un peu dans l'ambiance. La loi du pays, elle vous dit il faut se prosterner à l'idolâtrie, c'est la loi du pays, quoi.
On a le droit de se prosterner devant un homme, mais c'est une idée très stupide de ne pas le faire.
Non, mais toi, tu vas trop vite, tu vas un peu vite, là. Comment? Pourquoi c'était pas... Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est pas, il faut jamais copier sur les voisins. Jamais. Parce que quand ils disent des bêtises, après, on voit, vous avez dit la même bêtise. Qu'est-ce que vous... C'est pas forcément vrai ce qu'il dit.
Non, mais c'était pas clairement Avodazara.
Pourquoi? Mais Rachid a dit que oui.
Avodazara, c'est
idolâtrie. Rachid a dit que oui. Bon. Rachid dit, c'est pour ça qu'il se prosternait pas. Parce que bon, on se prosterne, je sais pas, il y a Sarkozy, il vient, on se prosterne. Je veux dire, il n'y a pas de problème.
Alors, on peut se prosterner ou pas
devant un homme? Devant un homme, là, c'est un problème d'idolâtrie.
Non, mais sinon, hormis l'idolâtrie, est-ce qu'on peut se prosterner si les lois publiques disent, voilà, tu te prosterneras devant le président de la République, est-ce qu'on peut le faire?
Il faut
le faire.
Se prosterner devant, je ne sais pas, bon, on ne sait pas tellement dans les mœurs devant un président de la République, dans nos contrées. Mais disons, je ne sais pas, à l'époque... Du roi du Maroc,
la reine d'Angleterre.
Ouais, bon, la reine d'Angleterre, bon, elle est... mais disons, je parle à un roi, que, disons, je sais pas actuellement Mohamed VI, là, si c'est vraiment un roi du Maroc, mais Hassan II, c'était un roi. Les gens, c'est, paraît-il, ils avaient une dévotion pour le roi du Maroc, Hassan II. Alors, il y a Hassan II, on se prosterne, il n'y a aucun problème.
Donc, ça s'est permis.
C'est pas seulement c'est permis, il faut, je veux dire, c'est pas une dévotion, tu fais pas ça par dévotion, tu fais ça par, dans les mœurs. Nous, on dit bonjour, on fait la bise, que sais-je, là, c'est pas un culte, tu fais pas un culte, c'est un signe de tu te soumets, c'est normal. Maintenant, lui, il se présente comme une idolâtrie,
c'est ça.
Ça c'est autre chose. Maintenant, c'est pas comment un homme, c'est un peu le problème qu'Ariel, tu soulèves. Comment c'est possible qu'un homme se prenne pour une idolâtrie? Vous imaginez, vous, ça? Qu'il se prenne pour un dieu?
Mais il y a le cas de Jésus.
Comment?
Il y a le cas de Jésus.
Par où, aussi?
Comment? Oui, mais disons... je me souviens pas comment c'était, je veux dire. Non, parce que après, les gens l'ont dit.
Voilà, c'est ça, ouais.
De son vivant, je ne sais pas si c'était vraiment...
C'est pas, il y a un phénomène, je pense que l'idolâtrie est facilement accessible à partir du moment où on vénère un homme au-dessus des autres.
Ouais.
La frontière entre se soumettre à un homme et l'idolâtrie...
On voit bien les... Comment
César, il s'est fait attribuer un culte comme un dieu.
Ah oui.
Ouais, César aussi.
Bon, on voit même, il y a les... Comment dire, les chanteurs, on les appelle les idoles. Idoles des jeunes, non? Les idoles. Non, mais... On dit bien les idoles, non? Par exemple, vous dites, oh, j'étais au resto, il y avait Enrico Macias. Oh, je lui ai demandé un autographe.
Mais ça, c'est de l'idolâtrie, déjà.
Comment?
C'est de l'idolâtrie, on est d'accord.
Bon, allons doucement, parce que vraiment, c'est l'idolâtrie...
Même Enrico Macias,
Henri, quoi?
Même Enrico Macias, c'est pas du moment... c'est l'idolâtrie, je veux son autographe, moi je trouve les groupies, les fans...
Tu vas pas faire...
Oh là là, quel iconoclaste!
Non, je sais pas, c'est une question que je pose.
Non mais, c'est intéressant, pourquoi on les appelle... Moi, je vois pour mes gosses, y a un mec d'ici, un mec qui donne des cours ici. En un mot, Mirocain. Oui. Alors, Mirocain, lui, il était, quand il était jeune homme, c'était un fou de Jean-Jacques Goldman. Alors, mais Jean-Jacques Goldman, ça veut dire, c'était le chemin Israël, il rajoutait et Hachem Echad et Jean-Jacques Goldman, quoi. Alors, quand il s'est marié, j'ai envoyé le faire part de son mariage à Jean-Jacques Goldman. En disant, voilà, cher Jean-Jacques, par un copain, j'ai eu son adresse. Cher Jean-Jacques, voilà, donc peut-être vous savez pas, mais même dans le milieu des yeshivot, on aime bien vos chansons. Et voilà, il y a un de mes élèves qui se marie. Et si vous voulez, je ne sais pas votre relation avec la Torah, mais il y a une grande mitzvah dans la Torah, c'est de réjouir les mariés. Si vous pouvez passer à son mariage, lui dire Mazel Tov, alors vous ferez vraiment une grande mitzvah. Alors, la suite, il a envoyé une lettre manuscrite. Voilà, félicitations, machin, bisous. Moi, je peux pas, je suis désolé, mais vraiment, je suis avec vous, toutes mes félicitations, patati, je sais plus quel blabla il a mis. Et le type, il était aux anges, quoi. Il a... Moi, tout le soir, j'attendais, est-ce qu'il va venir, il va pas venir. Bon, mais on est comme ça, non? Alors, on appelle les idoles. Bon, ça, on sait bien que c'est pas des dieux, bien que. Est-ce que c'est possible d'idolâtrer? Il s'est fait comme un dieu. Est-ce que c'est possible d'idolâtrer quelqu'un? Dans notre vie, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un... Moi, je pense que c'est possible. Hein. C'est pas loin. Hein. Par exemple, quelqu'un de connu... Quelqu'un de connu, on n'a pas une relation, quelqu'un de médiatique, on n'a pas une relation avec pareil que quelqu'un de qui n'est pas connu. Hein, on réagit comme ça, hein. Moi je réagis comme ça. Ou quelqu'un qui est riche, pas forcément connu, mais riche. Je sais pas, moi, on n'est pas avec... imaginez, regardez, voilà. Attendez, j'ai un coup de fil. Ouais. AO 613. C'est Zuckerberg, il arrive. Alors, imaginez, il y a Mark Zuckerberg qui est là. Ouais. Alors, vous rentrerez, que le cours soit bon ou pas bon. J'étais à un cours, il y avait Mark Zuckerberg. Tu sais, le type de Facebook, là. Il était au cours de Rav Zizek. En fait, le cours, on s'en fout. Mais qui est Mark Zuckerberg, c'est ça qui marquera. Attends, j'étais à un cours de Torah, il y avait Mark Zuckerberg. Mais nous, pour nous, il n'est pas pareil qu'un autre. Il n'a pas la même... ses globules ne sont pas les mêmes que les nôtres. Non ? Toi qui es médecin.
Moi, c'est Max qui en paye.
Tu t'en fous ? C'est vrai ? Comment ?
Je suis tout à fait d'accord.
Ouais, tu parles. Déjà, avant de voir le film, je ne savais même pas qui c'était, ce type.
Voilà, la gomachasse encore.
Bon. C'est le plus gros contribuable d'Amérique. Hein.
Comment ?
C'est le plus gros contribuable d'Amérique.
Attends, attends, un mec, c'est...
Alors là, on est frappé. Là.
Quoi, non, ça vous fait rien c'est... Vraiment, on vous dit que... Non, non, c'est pas un bon exemple. Bon, moi, je suis un peu... Je suis un peu fleur bleue, moi. Je suis un peu... je sais pas.
Finalement, ce que vous dites, là, on est... définir ce qu'est l'idolâtrie, le truc des idoles.
Non, idole, c'est quoi un dieu? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est différent, qui est porteur d'un d'un charisme qui est différent, c'est une puissance autonome. Ouais. C'est une puissance autonome. Ouais. Puissance supérieure.
Ce que je comprends pas, c'est dans le mot là, du commentaire, il s'est fait lui-même. Il parle de Aman, alors.
Aman s'est fait, voilà. Mais parce qu'il y a un bug dans le verset, on ne comprend pas pourquoi Mordechai ne se prosterne pas. Rashi répond, parce que, quand bien même le roi, ça c'est un problème politique, le roi a dit, j'imagine, si vous voulez, c'est un peu l'ascension comme l'ascension d'Hitler. Ouais, il y a le vieux, là, Hindenburg, ouais, il a placé le chancelier Adolf, ouais. Donc c'est lui qui l'a propulsé. Voilà. Mais après, son homme politique l'a dépassé, est devenu. Il s'est fait un propre culte.
C'est-à-dire la concurrence, que la puissance du roi directement. C'est ça qui est un peu. Je comprenais pas.
Oui. Est-ce que c'est une concurrence? Est-ce que c'est une concurrence? En tout cas, c'est un autre mode, moi je dirais. C'est un autre mode. C'est un mode. Il s'y croit ou il fait croire qu'il s'y croit, quoi. Il fait croire qu'il est qu'il est porteur du divin, voilà, de quelque chose de divin, une parcelle de divin, de quelque chose d'infini, voilà, de quelque chose d'infini.
Ce qu'on trouve de surprenant, c'est que le roi Ahasuerosh, il est quand même hyper, très puissant, quoi. C'est un roi absolu, il fait exactement ce qu'il veut, il domine Aman aussi, et Aman, il se permet de se faire passer pour Dieu.
Et c'est étonnant que Ahasuerosh accepte ça. Ça, c'est vraiment bizarre, c'est vrai. C'est bizarre, absolument. Très bien. Alors, le Maharal de Prague rapporte dans son commentaire, oui, Or Hadash, commentaire extraordinaire, il rapporte le Midrash sur Megillat Esther, que Mordechai, pas seulement Lo Icha Velo Ishtachave, pas seulement il ne se prosternait pas, mais même lorsqu'il avait un chemin à faire, il allait exprès devant Aman pour ne pas se prosterner devant lui. Je vais vous lire le texte. Avshaya yachol Mordechai, rapport le Midrash. Avshaya yachol Mordechai l'air derrière Acher. Même si Mordechai aurait eu un autre chemin, qui n'aurait pas rencontré Aman, qui n'aurait pas donc provoqué la colère d'Aman, eh bien Mordechai allait exprès en face d'Aman pour ne pas se prosterner. C'est ça le futur. Il ne se courbe pas, il ne se prosternera pas. C'est-à-dire exprès pour provoquer Aman. Alors, c'est ce que nous allons voir dans les versets suivants.
Il y a une chose que je n'ai pas très bien saisie. Le Shama, Aman n'a pas répondu. Maintenant, il n'aura pas répondu, mais il a dit qu'il était juif. Et Rachid nous dit que dire qu'il était Yehudi, qu'il dire qu'il était juif, c'était qu'il ne se prosternait pas parce qu'il n'était pas le Avodah Zara. Il a répondu.
Oui, au départ, il n'a pas prosterné.
Enfin, c'est quoi, c'est une question...
Il n'a pas répondu.
C'est une question de temps. D'abord, il n'a pas répondu, après, il a répondu.
Reprenons. Verset guimel, verset d'aller. Vayomru, Avdei HaMelech, Asher Mishamer, Mordechai. Ils ont dit, les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi à Mordechai, pourquoi tu enfreins l'ordre du roi? C'est un verset guimel. Là-dessus, il ne répond pas. Et jour après jour, il lui répète. Et il ne les écoute pas. Et alors, il rapporte à Aman en disant qu'il ne se prosternera jamais car il est juif. C'est là seulement qu'il lui dit.
Que Mordechai leur dit,
à la fin. Verset et Vayar Aman kien Mordechai kora mishtachavelo. Aman voit que Mordechai ne se courbe pas, ne se prosterne pas à lui. C'est-à-dire, finalement, il le voit, parce que peut-être que c'était dans une foule, mais quand, à un moment, il a vu qu'effectivement, les gens, au départ, voyaient qu'il ne se prosternait pas. Mais à la fin, Aman l'a vu. Vaïmale Aman Chema. Il s'est rempli Aman de Chema. C'est quoi Chema?
Colère.
De colère. Et en hébreu moderne?
De beurre.
De beurre, bon, enfin, bon. Ouais, on se prépare à Pourim, hein, c'est, on n'est pas, des papes, hein, non, c'est colère en hébreu biblique et beurre en hébreu moderne, je sais pas, trouver l'erreur, ok. Verset Vav, Vayivez be'enav, lishlo ariad be'mordechai levado. C'était bas à ses yeux de porter la main sur Mordechai seul, qui Igidoulo est à Mordechai, car on lui a rapporté le peuple de Mordechai. Vayevakesh Haman l'Ashmid et Kol Ayudim Asher Bechol Malchut Achashverosh à Mordechai. Et Haman a recherché à exterminer tous les juifs qui sont dans tout l'empire d'Assuérus, les juifs, peuple de Mordechai. Alors, il y a une question qu'on n'ose pas poser. Finalement, c'est Mordechai qui nous a mis dans le pétrin. Alors, il y a une question encore sous-jacente. J'ai plus de papier, là, je suis désolé. J'aime bien écrire les questions sur le papier. Bon, on va faire comme si. Ouais. On va jouer comme s'il y avait un tableau. Que... comment ça se fait qu'il n'y a que Mordechai qui ne s'est pas prosterné? Alors, pourquoi les autres ne se sont pas prosternés? Alors, il y a un débat dans le Talmud. Une idolâtrie que personne ne vénère spontanément, mais qui est une idolâtrie que l'on sert que par la contrainte, a-t-elle un statut d'idolâtrie? C'est-à-dire, une idolâtrie, si vous voulez, qui n'éveille pas un culte spontané, qui n'éveille même aucun culte, mais qu'on sert par la contrainte, a-t-elle un statut d'idolâtrie? De la même manière, une idolâtre, voilà, ça s'appelle Meira, qu'on ne sert que par la crainte. L'alaha est qu'une telle avodazra, c'est-à-dire t'as des idolâtries qui ont pignon sur rue, et tu peux avoir finalement une vague de persécution. Alors ça, on doit pas servir l'idolâtrie. Mais t'as une idolâtrie qui n'est finalement installée que par la contrainte. Finalement, il n'y a aucun culte spontané. Personne n'y croit. Mais on se soumet simplement sur la contrainte. Est-ce que c'est un statut d'idolâtre? La halakha, non. Donc là encore, c'est pour ça que tous les juifs se prosternaient. Mais lui dit non, je me prosterne. Je ne me prosternerai pas. Alors là, Mordechai, il en a rajouté. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que peut-être on pourrait suivre la loi du pays? Alors, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'était une idolâtrie. Mais une idolâtrie qui n'était installée que par la contrainte. Au niveau légal, on a le droit de se prosterner. Et ici, nous avons vu que par ce futur, le Midrash dit, pas seulement Mordechai ne se prosternait pas, mais il allait même en face pour provoquer et pour ne pas se prosterner. Alors là, Haman, il était furax. Et les gens disaient, mais c'est à cause de Mordechai que ça se passe tout ça. Ça, c'est incroyable. On n'ose pas vraiment poser cette question. On dit Mordechai, on aime bien. Même dans nos familles, on appelle nos enfants Mordechai. Moi, j'ai un fils qui s'appelle... c'est pas son premier nom, il s'appelle Akiva Mordechai. Mordechai.
On m'a dit qu'il avait un compte à régler, en fait.
Comment?
On m'a dit qu'il avait un compte à régler avec Haman.
Oui, ou alors, on pourrait dire, et là va commencer notre étude ce soir, c'est un fanatique. Il a dit... Voilà, c'est à cause de ces fanatiques qu'il y a des problèmes dans le peuple juif.
Je te dis. Il voulait que...
C'est un fanatique. Un fanatique. Enfin, je veux dire. Comment ?
Il voulait que subsiste un noyau dur pour...
La fanatique.
Voilà.
Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a une place au fanatisme ou non ? Ou...
Voilà. Mais on pourrait voir ça autrement. On pourrait se dire que ce n'est pas un fanatique, c'est un anarchiste. Il ne veut suivre aucune règle.
Il ne fait pas de pcharotte.
Pas ce que je me disais.
Non. Comment ? C'est un anar, quoi. Il ne se soumet pas, ni Dieu ni maître, quoi. Non. Voilà.
Est-ce qu'on sait qu'il était, pieux, Mordechai ? Il était pieux,
Il était très pieux. Il était très, très pieux.
Il était pieux, quoi.
Très pieux. C'était très, très pieux. Il était même membre du tribunal rabbinique, voire chef du tribunal rabbinique.
Mais excusez-moi, je trouve que le terme fanatique, je ne le trouve pas très approprié, en fait.
Ah bon ?
Parce que si on se met à la place de Mordechai... et qui se sent investi d'une mission, entre guillemets, est-ce qu'il prend conscience qu'il expose son propre peuple ?
C'est ce qu'ils lui disent, jour après jour, il lui dit « Arrête, Mordechai ». Et alors justement, le Talmud dit ça. Le Talmud dit, alors maintenant on revient le Talmud dans le traité Megillah, donc il y a un traité entier de Talmud sur Pourim. Hein. Ça c'est très important, nous on a vu à des études qu'il n'y a aucun, même, il n'y a même pas une Mishnah sur Hanouka. Mais sur Pourim, pas seulement que sur Pourim, il y a un texte entier dans les écrits saints, il y a la Megillat Esther, mais un traité de Mishnah et de Talmud entier, au niveau des textes, c'est énorme, Pourim. Pourim, c'est un truc de ouf, quoi.
C'est une fête de riches.
Pourquoi ?
Putain.
Alors... Petite seconde. Voilà. La Gemara d'A Fiudbet Amoudbet dans traité Megillah. Rava dit, on a vu au début de notre étude, reprenons le verset chapitre Bet, on dit un homme juif, un homme de Yehuda, Ish Yehudi, Ayab et Shushan Abira, un homme Yehudi, donc de Yehuda, ouais, et il était de Binyamin. Alors il est de Yehuda ou de Binyamin ? Il y a plusieurs explications dans le Talmud. Alors une des explications, Rava dit qu'en vérité il y avait deux griefs dans cette histoire. Dans cette histoire, il y a eu deux problèmes. Dans l'histoire de la confrontation entre Mordechai et Aman, il y a deux problèmes qui se mettent ensemble. C'est quoi ? Que la tribu de Yehuda a fauté et la tribu de Binyamin a fauté. C'est la connexion en vérité. Mordechai est la connexion de deux problématiques. C'est quoi ? C'est que David, qui venait de la tribu de Yehuda, n'a pas tué Shimi ben Gera quand il fallait le tuer. C'est pour ça d'ailleurs que le verset relève que Mordechai descend de Shimi, bien qu'en vérité, si on mettait tous les ascendants de Mordechai, il y aurait plein d'autres ascendants à mettre. Mais il descend de Shimi. En vérité, c'est le problème de Yehuda, de David qui vient de la tribu de Yehuda. Et il vient de la tribu de Binyamin. De quoi ?
Parce que
Shaoul n'a pas tué le roi Agag quand il aurait fallu le tuer. Voilà. Alors, c'est quoi ce problème ? C'est quoi le problème ? Alors, on va regarder quelques versets dans le prophète Shmuel. Regardez, je vous passe des photocopies. Donc, c'est dans le livre de Samuel. Voilà, je vous passe des photocopies. Donc je reprends le problème qui est vraiment un parce que en vérité, si on il y a des gens qui disent en Israël tous les problèmes c'est à cause des religieux. Vous avez jamais entendu des gens qui disent ça? Hein? Hein? En Israël, tous les problèmes c'est à cause des religieux. Et les goyims, ils disent, ouais, il y a des pays, hein, je ne sais pas, Ahmadinejad, etc., qui disent, mais tous les problèmes, c'est à cause des juifs. Alors, bon, nous on dit, bon, c'est des menteurs, c'est des salauds, on s'en fout. Mais peut-être c'est vrai. Non. Non, c'est vrai, pourquoi on n'est pas comme les autres
à force, on devrait peut-être réfléchir à ça.
Non, ça veut dire... c'est clair. Moi, un mois avant Pourim, je me mets dans l'ambiance. J'essaie de... Hein, donc, moi, j'aime bien les rechaïm, j'aime bien les salauds. Parce que des fois, ils disent des choses que les autres n'osent pas dire. Peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vrai. Je sais pas, par exemple, vous savez... Nous, dans la communauté, c'est de bon ton de dire que le protocole des sages de Sion, c'est un faux avéré. Ouais, c'est connu. Ouais. Mais finalement, nous, dans notre tradition, on ne dit pas le contraire du protocole des sages de Sion. On dit que nous, par Torah ou Mitzvot, on construit, on déconstruit le monde. Que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Sinaï, par le fait, jusque-là, c'était Dieu qui dirigeait le monde, par le fait qu'on reçoit Torah au Mitzvot, finalement, c'est nous qui sommes... l'homme devient libre, et l'homme est libre du destin du monde. Donc, dans une certaine mesure, je dirais pas que ça ne sorte pas d'ici que c'est le protocole des sages de Sion, mais disons, ce fantasme, ce délire méchant... Et pas complètement faux, ils comprennent quelque chose. C'est pas quand ils disent que c'est les Roshanim disent c'est à cause du peuple juif qu'il y a des problèmes. C'est vrai, c'est rachat, c'est impie, Alors maintenant ça c'est les antisémites disent ça. Mais non, nous les juifs, il y a des juifs qui disent, moi je l'ai entendu, et c'est à cause des religieux qu'il y a des problèmes. Ça se dit aisément, je veux dire, c'est pas... Vous avez tous entendu ça, mais c'est sûr, ça cause... Regarde, s'il y a des problèmes, ce serait un pays bien, mais il faut vraiment le fourbi. Alors maintenant, je sais pas comment analyser ça, mais en tout cas, ici, on a, dans le texte, on voit, c'est Mordechai qui fout la pagaille. Mordechai fout la pagaille. Si Mordechai s'était prosterné, il n'y aurait pas eu de problème. On n'ose pas le dire. Ouais, on n'ose pas le dire. Voilà, c'est faux, au moins, posons la question. Et pas seulement ça, mais l'Agmara, finalement, relève ça. Que c'est l'explication d'un des maîtres de l'Agmara, de Rava, il y a d'autres explications, que quand on dit un homme de Yehuda, un homme de Binyamin, c'est qu'en vérité, la personnalité de Mordechai est au confluent de deux problèmes. Que David a fait une faute. Est-ce que c'était une faute ou pas une faute? C'est un problème. Quel est le problème? Regardons, je vous ai passé la photocopie. Chapitre Tetzaïn du deuxième livre de Shmuel de Samuel. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Voilà. Un moment, David... Et à son fils Avshalom, qui fait un coup d'état et prend le pouvoir. Et pas seulement il prend le pouvoir, mais il veut. La mission, c'est de tuer son père. Voilà. Pour asseoir son pouvoir. Le roi David a des concubines. C'est un truc terrible. C'est. Alors, entre parenthèses, on a commencé une étude le jeudi soir du livre de Shmuel à Fleg, ouais, parce que c'est un livre extraordinaire. C'est pas connu, mais c'est nos textes, que Avshalom a fait un coup d'état,
qui a été, comment dire, aidé par les plus fidèles lieutenants de David, qui ont trahi David. Et donc il prend le pouvoir, et pour asseoir son pouvoir, en public, il viole les concubines de son père. C'est écrit dans le texte. Et pas seulement ça, il envoie sa police pour attraper son père et le tuer. Alors David, avec quelques fidèles, part de Jérusalem et part dans la campagne, voilà, avec ses sandales, là, il part dans la campagne. Bien. Le verset est « Ouba Ameler David ad Bachorim. Arrive le roi David jusqu'au lieu dit qui s'appelle Bachorim. » Radak nous dit, c'est une ville dans le territoire de Benjamin. Veine misham ish yotse mi mishpachat bet Shaul ou shemo shimi ben Gera yotse yatso ou mekalel. Et voilà, de là il y a un homme qui sort de la famille de la maison de Shaul. Son nom c'est Shimi ben Gera. Le voilà sortir, qui sort et qui maudit le roi David. Vous pouvez remarquer, j'ai toujours coutume de dire, de rapporter le Midrash qui dit que quand on dit son nom c'est un tel, c'est que c'est un tzaddik.
Mais un tel son nom, c'est pas un tzaddik.
Un tel son nom, c'est que c'est un racha. Shemo, alors c'était Shimi ben Gera, c'était un des plus grands tzaddikim de la génération. Tellement que ça sera le maître du roi Salomon plus tard. C'est un gros truc. Là, on est dans un gros problème. Il sort et maudit. Verset suivant. Ve'isakel b'vanim et David v'et kol avdei ameler David v'chol ha'am v'chol ha'gimorim mimino mismolo. Il jette des pierres sur David et sur tous les serviteurs du roi David et tout le peuple et tous les héros de David à droite et à gauche. Il y a tous les héros à droite et à gauche. Quels sont ces Giborim ? Une seconde. Oui, c'est-à-dire, ils jettent des pierres sur tout l'armée des fidèles de David. Ils jettent des pierres dessus. Vekoamar Shimi Bekalelo. Voilà ce que Shimi disait dans sa malédiction. Tse Ish Adamim, Ish Abelial, sors d'ici. Homme assassin, homme de sang, homme sans foi ni loi. Et Shiv Alecha Hashem, Kol de Mebet Shaul Hashem, Alarta Tarta, Viten Hashem et Amloa Beyad Avshalom Benecha, Fincha Beratra Kishdamimata. Que Dieu te donne tout le sang de la maison de Shaul, que tu as pris le trône à sa place, et que Dieu donne la royauté dans la main d'Avshalom, ton fils. Voilà! Tu n'as que le mal de tout le sang que tu as versé. Pourquoi ? Parce que le Shaul était mort. Enfin, il y avait des gros contentieux. Que David prenne le pouvoir à la place de Shaul, c'était en vérité, c'était un gros problème. Bon, il faut reprendre tout le truc. Shaul était quelqu'un de... Comme on voit dans le verset, Shaul était considéré... Le verset dit... que Dieu a nommé comme premier roi du peuple. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui. Que le pourquoi le premier roi était Shaul et pas David ? Parce que le verset dit, Shaul était le meilleur du peuple juif. David était quelqu'un... quand on voit les versets un peu bizarres, un peu excentriques par rapport à Shaul, c'était un peu quelqu'un d'excentrique. Shaul, c'était vraiment, le verset dit, c'était le meilleur du peuple juif. Et donc il a été évincé, David a pris le pouvoir. David n'a pas cherché à prendre le pouvoir, mais finalement il a pris le pouvoir. Et Shimi ben Gera dit, c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. Que ton fils Avshalom
se révolte contre toi, c'est lui qui va prendre le pouvoir. C'est lui qui va prendre le pouvoir en, ça veut dire, en, à la suite logique de tous les crimes que tu as faits. Verset suivant. Verset tête. Vayomer Avishai ben Tsruya el Ameler. Lama yekalev a kelev a met aze et adoni ameler. Evrana va sira et rocho. Regardez, moi j'adore ce truc-là. C'est dommage qu'on ne connaisse pas. C'est magnifique. Avishai ben Tsruya. C'est qui Tsruya? Là, un bonbon pour la semaine prochaine. C'est qui Tsruya?
Un oncle de David.
Comment?
Un oncle de David.
La sœur de David. Avishai ben Tsruya, c'est le neveu. Tsruya, c'est une sœur. Voilà. Avishai, donc c'est le neveu. Avishai ben Tsruya, c'était un des fidèles, parmi les fidèles. Avishai dit au roi, il dit au roi, pourquoi ce chien crevé maudit mon seigneur le roi? Laissez-moi passer que je lui enlève la tête. C'est beau, non?
C'est vrai, c'est chevaleresque.
Alors ici, le qu'est-ce qu'il dit David? Et c'est le verset clé.
Oui, voilà.
Vayomer Ameler, Mali velachem benetsruya ki kalel, vechi Hashem amarlo kalel et David, ou miyomar madoa sitaken. Bon, je ne vous ai pas fait la photocopie d'après, mais c'était deux mots. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu te prends à ça, fils de Tsruya? Qu'est-ce que vous, comment dire, vous voulez être plus royaliste que le roi? En vérité, ça me fait expiation sur toutes mes fautes. S'il le dit, c'est que Dieu lui a dit de le dire. Pourquoi? Parce que Shimi ben Gera, c'était c'était une des plus grandes personnalités spirituelles du peuple juif. Donc si Dieu, s'il le maudit, c'est qu'en vérité Dieu lui a dit de maudire. On va voir encore quelques versets. Bon, finalement, la révolte d'Avshalom a loupé, comme vous savez. Ouais. Vous avez vu le film? Il faut faire un film. J'attends un vrai film avec l'explication des chachamim. Selon l'explication des chachamim. Bien.
Et ça, allez. C'est considéré comme une faute dans la vie?
Non. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, le fait, il a dit non, ne le touche pas. Ne le touche pas. On va voir pourquoi il a dit ne le touche pas. Pourquoi ne?
Parce que ça va m'amener du bien.
Comment?
Parce que ça va m'amener du bien en vérité.
Il dit que
le fait d'être humain.
Si quelqu'un de, comme Shimi ben Gera sort et me maudit,
c'est comme ça qu'il faut.
C'est pas. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans. On va voir quoi.
Moi j'avais cru qu'il fallait comprendre. Ah, si je suis humilié, ça peut amener que du bien devant Hachem.
Ça c'est vrai. Mais on va voir. Que aussi, c'est un crime de lèse-majesté. Quelqu'un qui s'attaque au roi, c'est un crime de lèse-majesté.
Moi, j'ai toujours entendu dire que, quand en règle générale, que si on fait du lashon hara sur quelqu'un, le mérite, il s'inverse en vérité, quoi. Quelque chose comme ça.
Oui.
En vérité, non seulement ça porte pas à conséquence, dans le sens du mal, mais au contraire. Ouais. Donc, peut-être ça, c'est ça le raisonnement de David. Il dit comme ça, il m'insulte, mais ça va se retourner en bien.
Il y a des problèmes ici. C'est vrai que il a été évincé, mais pas vraiment. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il pense, le sens simple du verset, c'est que Dieu lui dit de maudire. Dieu lui dit de maudire. Regardez le verset suivant. C'est dans un chapitre Yud-Tet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, la révolte d'Avshalom tourne court. Avshalom meurt. Ouais. Avshalom meurt. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Shimi ben Gera vient le premier demander grâce à David. C'est le verset qui dit.
verset Kaf. Donc chapitre Yutet, verset Kaf. Vayomer el Ameler. Al yachov li Adoni Avon, va tiskor et asher eva avdecha bayom asher yatsa Adoni Ameler Mirushalim la sum Ameler el libo. Il dit au roi que mon seigneur ne me considère pas une faute, ne prends pas rancune de ce que ton serviteur, c'est-à-dire de ce que moi j'ai fauté, le jour où mon seigneur le roi est sorti de Jérusalem. La souma meler el libo. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. Oui, c'est-à-dire ne mettez pas en rancune dans votre cœur. Ki yadav dera kani khatati. Moi, ton serviteur, je sais que j'ai fauté. Iné bati ayom rishon le cholbet Yosef. La redet likrat Adoni Ameler. Je suis le premier aujourd'hui de toute la maison de Yosef pour demander grâce au roi. C'est-à-dire qu'après la chute d'Avshalom, Shimi ben Gera vient demander pardon à David. Ce qui est très très important, parce qu'en vérité, les gens avaient beaucoup de griefs par rapport à David. David, contrairement à Shaoul, était quelqu'un qui faisait plein de guerres. Et c'était une personnalité, on pourrait dire, ambiguë. C'était pas clair, est-ce que c'était un tzadik ou c'était un rachat. Il y avait des gens qui avaient des griefs par rapport à David. Le fait qu'il demande grâce à David, en vérité, politiquement, est très très important. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vayan Avishai ben Tsruya vayomer atachat zol lu yumal Shimi. Alors encore Avishai ben Tsruya, il dit, quoi, c'est pour ça qu'il ne va pas mourir Shimi? Il dit, oui, c'est facile, hein, tu mens, tu viens de... Ouais. Voilà, qui kilel et Meshiach Hashem, car il a maudit le oin de Dieu. Il a maudit le oin de Dieu. C'est un crime de lèse-majesté. Il a maudit celui que le prophète, au nom de Dieu, a nommé roi. Va Yomer David, Mali Velachem Benetsruya. Quoi, encore tu vas faire le plus royaliste que le roi? Qui dit au lit à l'homme le Satan, si en vérité je t'écouterais, ce serait une embûche. Ayom Yumatish Be Israël, Kalo Yadati, Kayom Animeler à l'Israël. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un meure, car politiquement, ce serait une grosse catastrophe. Il vient me rallier en vérité tout. Et regardez ici, il y a un contentieux dans le peuple juif, et on revient à nos versets de la Megillat Esther. Il y a un contentieux dans le peuple juif entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Vous pouvez remarquer...
C'est dit Ben Yosef, lui.
Ben Yosef, ouais. Bonbon. Chum-gum. Regardez. Le verset Kafalef. Il vient, il dit, Shimi ben Gera, Ki yadav decha kani chatati, ton serviteur, c'est-à-dire moi-même, je sais que j'ai fauté. Iné bati ayom rishon le rol bet Israël, bet Yosef. Je suis le premier aujourd'hui qui vient de toute la maison de Joseph. On vient de voir qu'il n'est pas la maison de Joseph, il est la maison de Benjamin. Mais, en vérité, ça remet le contentieux entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Et on se souvient que les enfants de Léa était prêt à tuer Joseph. Pourquoi ils étaient prêts à tuer Joseph? Pourquoi ils étaient prêts à tuer Joseph? Vaste question, hein. Mais il y a un contentieux dans le peuple juif. Il y a une... Il y a...
À savoir qui...
Il y a deux groupes.
Oui,
il y a deux groupes politiques.
Où est la royauté en vérité, ouais. C'est-à-dire du côté de Yehuda ou du côté...
Voilà. Est-ce que c'est Yehuda ou... C'est-à-dire Yehuda, enfant de Léa, ou est-ce que c'est Binyamin et Yosef,
ouais, fils de Rachel.
Et lui, en vérité, il dit non, il ne faut pas du tout qu'il meure. Parce que si il demande de nouveau allégeance à la tribu de Yehuda, c'est ça qui va unir le peuple juif. Si tout de suite je tue Shimi ben Gera, ce qui en vérité est légitime de le tuer. Ce qui en vérité est légitime de le tuer, ouais, parce que
il a touché à la royauté, si c'est légitime, bien que ça soit légitime, mais je fous l'unité du peuple juif en l'air. Donc il ne faut pas du tout qu'il meure. Et il va lui jurer, je ne te tue pas. Alors maintenant, je n'ai pas fait des photocopies de tous les textes. Au début, le premier chapitre du livre des rois, c'est le deuxième chapitre du livre des rois, c'est « David va mourir ». Je peux prendre le texte, please, en français ? Merci, thank you very much. Alors, le livre des rois. Le deuxième chapitre, donc David va mourir. Ses dernières paroles sur son lit de mort. Les jours de David approchant de leur fin, il dicta ses volontés à Salomon son fils en ces termes. Deux points. Donc avant de mourir, il est sur son lit de mort. Il dit voilà, cher Salomon, cher Shlomo, je vais sur le chemin de toute la terre. Tu as dans ton entourage Shimi ben Gera de Binyamin, de la ville de Bahorim. Celui-ci m'accabla des plus cruels outrages lorsque je me retirais. Eh bien, ne le laisse pas impuni. Tu sauras comment en user avec lui et tu feras descendre ensanglanté sa vieillesse dans la tombe. Et David meurt.
Mais c'est vraiment l'irruption du politique, quoi, tout ça.
C'est beau. J'adore.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, finalement, il n'a pas... Tout de suite, il n'a pas... On reprend. Ici, il y a un problème. David... Il part, il y a son fils qui a pris le pouvoir, qui a fait un coup d'état, David y part dans la campagne, etc. Il y a quelqu'un de la famille de Shaoul, Shaoul est mort, quelqu'un de la famille de Shaoul, qui est une des plus grandes personnalités spirituelles du peuple juif, qui sort et qui accable David, assassin, homme sans foi ni loi, patati patata, c'est à cause de toi que le peuple juif va mal, etc. Voilà. Avisha ben Tsruyas, le neveu de David, dit, bon, dis-moi, ça va, c'est clébard, là, hein, ouais, on va pas l'écouter longtemps. Il dit, non, s'il parle, il a quelque chose à dire. On ne le tue pas. David, donc, les années passent, il y a des années qui passent, sur son lit de mort, avant de mourir, avant de faire chemin à Israël, ouais, il dit, Shlomo, viens. Shimi ben Gera, ouais, je compte sur toi. The end, ouais.
C'est pas.
Voilà. C'est bon, Shlomo, c'est bon. C'est le merveilleux message de paix du judaïsme, quoi. Voilà. Ok. Alors, on reprend maintenant. Le Talmud dit, t'as plus de bête, dans le traité Megillah. Entre le temps, les années qui sont passées, Shimi, il a eu un enfant. Et c'est de cet enfant que descend Mordechai. Mais pourquoi il ne l'a pas tué tout de suite? On n'aurait pas eu tous ces problèmes avec Mordechai. C'est pour ça qu'on nous dit que le verset dit descend de Yehuda. C'est pas qu'il descend de Yehuda. On reprend le verset. Ça, c'est la lecture de Rava. On reprend le verset. Dans Megillat Esther, on nous dit que Mordechai descend de Yehuda, mais il ne descend pas de Yehuda, puisque le Razis, tu as dit qu'il vient de Binyamin. Non, il vient de Yehuda, parce que David, de la tribu de Yehuda, c'est grâce au fait que David, il n'a pas tué son pépé, qu'il est né Mordechai. Et pourquoi on a eu tous ces embêtements que Mordechai se prosterne pas?
tous ces embêtements? Pourquoi on a tous ces embêtements? Pas à cause de Yehuda! Qu'il y ait un entêté comme ça, comme ce Mordechai qui se prosterne pas! Oh là là! À cause de Yehuda! Pourquoi il l'a pas buté?
C'est 50% de l'affaire, ça.
Après, il y a un autre problème, c'est pourquoi il y a Haman.
Oui, pourquoi il y a Haman, c'est ça.
Voilà. Ça, c'est encore un autre problème. Ah, si seulement il avait buté Shimi tout de suite, il n'y aurait pas eu cet embêtant, cet énervant de Shimi, de Mordechai. Alors, j'ai vu une explication, c'est le... Le Maharal développe ça dans le livre sur Megillat Esther. Rav Dessler aussi rapporte ça, un cours de Rav Dessler dans le livre Mirta Meliaou. Et j'ai vu dans un autre livre aussi, qui développe. Que, comment ça se fait, la question est la suivante. Est-ce que tout ce qui est arrivé, c'est la faute de Mordechai? Est-ce que Mordechai avait raison de ne pas se prosterner? Parce que qui ne se prosterne pas, c'est une question. Mais le Midrash dit, il allait même provoquer Haman. Pourquoi il allait provoquer Haman? Pourquoi il allait provoquer Haman? Ça, c'est incroyable. C'est, je sais pas moi, c'est au risque de me répéter, c'est du fanatisme. Soit un peu pondéré. Soit un peu, conciliant avec les réalités du moment. Il y a des réalités. Pourquoi il y a des gens, ils sont dans leur truc. Pourquoi être dans son truc? Alors, on peut expliquer comme ça. J'ai vu cette explication dans le Mirta Meliaou. Que comment ça se fait qu'il n'a pas tué Shimi Ben Guerra tout de suite? Parce que Shimi Ben Guerra a quelque chose, il y a une intégrité, personne n'osait s'attaquer. Bon, Avshalom s'est attaqué à son père. Mais que quelqu'un aille finalement provoquer David et lui dire ces quatre vérités comme ça. Il y a quelque chose de en général, on est conciliant dans la vie. Nous, on apprend dans la vie, on apprend à être la maturité. Odile, tu disais anarchiste. On est anarchiste quand on a 16 ans, je veux dire, mais 16 ans et demi, 17 ans. Mais après...
Mais il se comporte comme un adolescent. On pourrait croire.
D'accord, mais c'est un... c'est bébé un peu quand même, non? La maturité, c'est... Tu te vas, je sais pas moi, tes collègues, on dit connard, t'es mal barré, je veux dire... si tu le dis comme ça pour rigoler, ça va. Mais s'ils sentent que tu le penses... Tu ne vas pas te faire aimer, je veux dire, la maturité, c'est apprendre à quand même à
arrondir les angles.
Arrondir, tu dis pas tout ce que tu penses. Quand tu as 16 ans, 17 ans, ça va, mais comment dire, quand on est adolescent, on est comme ça. Après, on devient bourgeois, quoi. Après, on devient bourgeois, on rentre, on apprend, c'est la maturité, on devient... Voilà. Alors, mais que quelqu'un puisse s'exprimer, pas de manière, justement, adolescente, mais puisse s'exprimer, ça, c'est un problème très, très important. C'est un problème très important. C'est le problème, est-ce qu'il y a une authenticité d'un autre type qu'une authenticité adolescente? Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible d'affirmer ce qu'on est
être vraiment pleinement affirmé autrement que de manière fantasmatique, immature et bébé, quoi, finalement.
Bah, faut espérer.
Comment ?
Faut espérer.
Vous êtes d'accord, avant ?
Bah, c'est même le but.
C'est le but.
De réussir à s'exprimer le plus, de la façon la plus proche de soi, oui.
J'aurais une preuve contre ce que tu dis, si je peux me permettre. Hein. C'est que souvent, toi tu fais des peintures, si je ne m'abuse. Oui. Tu essayes. Alors, non, tu réussis. Tu fais des jolies choses. Tu fais des peintures. Mais justement, souvent, l'authenticité, elle est dans l'art, dans l'expression artistique. Mais elle n'est pas dans la vie. Nous, par exemple, nous, on est des gens gentillets. Il y a des gens, ils vont payer de l'argent pour aller voir, par exemple, un humoriste qui dit ses quatre vérités. Mais c'est dans un format très précis. Ils disent que, comment dire, moi je me souviens, l'époque Coluche. Ouais. Coluche, c'était en vérité très formaté. C'est très très formaté. Les gens, on parlait tout à l'heure d'idolâtrer. Les gens, ils idolâtraient Coluche. Parce que il disait ce que personne ne disait. Mais c'était un humoriste. C'est pas dans la vie. C'est pas dans la vie. C'est finalement, c'est du showbiz. Ouais. C'est du showbiz. C'est pas dans la vie, justement. Quelqu'un, moi je me souviens... une fois, il était interviewé à la radio Coluche. L'interview devait s'arrêter. Je me souviens, j'étais au pressing à Strasbourg. J'étais à Strasbourg à l'époque. Ok, c'est beau. Et j'étais au pressing. Et ça devait s'arrêter à 17h parce que pour le flash des informations. Il a tellement pris la tête à celui qui l'interviewait que ça a duré plus que 17h15. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Le mec, il dit, mais tu vas pas m'arrêter, je suis en train de te parler, tu vas pas m'arrêter à cause de ces conneries-là, du flash info, dont tout le monde, on s'en fout, de ce machin, et ils ont pas pu l'arrêter. Mais finalement, c'est du showbiz. C'est pas dans la vie. Dans la vie, on fait pas ça. Dans la vie, on est gentil, on est cadré, on est... On dit pas ce qu'on pense.
On peut le faire, mais je crois qu'on passe pour un fou.
Voilà,
c'est d'accord. On passe pour un fou quand on le fait.
On passe pour un taré.
On ne croyait pas forcément.
Et ici, justement, Shimi Ben Guerra. Shimi Ben Guerra, il a eu une expression. Personne n'osait dire à David que c'était un assassin. C'était pas un assassin. Mais c'était ambigu quand tu tues. Ça peut être une mitzvah, ça peut être un crime, c'est ambigu. Mais quelqu'un qui s'exprime, espèce d'assassin, et s'exprimer, et c'était un grand maître de Torah, Shimi Ben Guerra, il y a des preuves à ça. S'exprimer, là, il y a quelque chose que David a pensé que ce point-là, il y a quelque chose à respecter. Et les Chachamim disent qu'une fois qu'il était vieux, qu'il n'avait plus d'enfant, alors là, il a dit à son fils, élimine-le, parce qu'il a fauté. Mais, en vérité, il y a quelque chose qui doit partir, se véhiculer à l'intérieur du peuple juif. Ces dimensions qu'est Shimi Ben Guerra, cette capacité d'exprimer des choses qu'on ne veut pas entendre et que personne ne veut entendre, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se trouve chez les enfants de Rachel. De tenir face à on est dans des situations difficiles, à l'adversité, tenir face à l'adversité. Et justement, il dit, je suis Ouais, le premier des enfants de Joseph. Les Rachamim relèvent que Mordechai, jour après jour, on lui disait « Pourquoi tu te prosternes pas ?» Le Midrash dit, cette expression, on la voit à propos de Yosef, où la femme de Poutifar, jour après jour, il y a les mêmes mots, lui faisait la cour. Jour après jour, elle lui faisait la cour. Et jour après jour, il ne voulait pas l'écouter. Ça, c'est les enfants de Rachel, les enfants de Rachel. Il y a une dimension ici, dimension que de fermeté et de ne pas se courber par rapport à l'adversité. Et ça, il a compris David. C'est pour ça, il faut que cette dimension, elle reste dans le peuple juif. Elle reste dans le peuple juif et Mordechai, il y a cette dimension, on pourrait dire, j'ai vu dans les commentaires, le Maharal dit, c'est ça la dimension de Binyamin. Binyamin, c'est le seul des enfants de Jacob qui ne se sont pas prosternés à Ésaü. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas né. C'est le seul qui ne s'est pas prosterné à Ésaü, à Ésav. Parce qu'il n'était pas né. Alors j'ai vu des commentaires, Rav Dessler exprime magnifiquement dans son cours qui est rapporté dans le Mirtav Meliaou. Il dit qu'en général, face à Ésaü et Aman est un descendant d'Ésaü. Il y a plusieurs démarches. On voit que Jacob a une dimension conciliante. Il y a Ésaü qui arrive. Ouais, tout le monde se prosterne. Ouais. T'es le plus fort, t'as le pouvoir. On est conciliant avec le pouvoir, avec ceux qui ont le pouvoir en place. On ne cherche pas à affronter. Mais il y a une dimension qui est la dimension de Binyamin. C'est une dimension qui ne cherche pas à être conciliant. C'est la dimension, c'est-à-dire de sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas une dimension qui est donnée à tout le monde. Sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est le Maharal développe ça. C'est la dimension que coûte, on doit sanctifier le nom de Dieu. Et cette dimension, c'est la dimension de Binyamin. C'est pour ça que le Saint des Saints, le Temple de Jérusalem, est construit entre le territoire de Yehuda et le territoire de Benjamin et de Binyamin. C'est l'autel sur lequel on fait les offrandes, c'est la limite entre le territoire de Yehuda et le territoire de Binyamin. Le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, est dans le territoire de Binyamin. Et cette dimension, c'est la dimension de Binyamin. Que coûte que coûte, il n'y a pas de conciliation. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? C'est important, pourquoi je vous rapporte ça ? D'abord, ça explique des versets. Ça explique des versets qu'on n'ose pas aborder d'abord, parce que c'est des thématiques, dire que Mordechai, que Mordechai ne se prosterne pas. En soi, on dit, mais pourquoi il ne s'est pas prosterné ? Je ne comprends pas. Tout le monde s'est prosterné, pourquoi il ne se prosterne pas ? C'est lui qui a mis le peuple juif en danger. Mais d'un autre côté, lui, évidemment, ce n'était pas pour mettre le peuple juif en danger, mais c'est, il y a une dimension qui doit exister, que on est fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de conciliation. Mais l'Agmara dit, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas une dimension, c'est pas un slogan. Je crois que ça c'est très très important et je crois que j'ai voulu faire que cette étude ce soir, ce soit une préparation à Pourim. Pourim, c'est une fête assez violente. Je sais pas, parce que vous avez... non.
Ouais. Non, je suis assez d'accord.
Comment ?
Je suis assez d'accord.
Pourim, c'est une fête assez violente. Les Chachamim nous disent, oui, je vais vous rapporter le Talmud. Voilà, Dav Zayin Amoud Bet, le Talmud dit, vous demande une petite seconde. Voilà. Amar Rava, c'est intéressant, c'est Rava, c'est le même maître, il dit. Amar Rava, mais Chayev Inish le basume be Puria Adeloyada ben Arur Raman et Baror Mordechai. L'homme a l'obligation, le basume be Puria, de se. Comment ? Alors, les basoumés de se parfumer, ouais, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, de se parfumer. Les basoumés, c'est Bessamim. Se parfumer à Pourim, jusqu'à ce qu'il ne sache pas la différence entre béni Mordechai et maudit Haman. Qu'est-ce que veut dire se parfumer ? Rashi, l'ishtaker beyayin. On a l'obligation de se saouler dans le vin. Et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est quoi cette histoire de « on a l'obligation de se saouler à Pourim » C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans Maïmonide. C'est-à-dire, il y a une dimension à Pourim, et le miracle finalement est venu, certes, ça provoquait Haman, mais finalement, le peuple juif a été régénéré, a retrouvé son identité à Pourim. Le peuple juif a trouvé son unité. Et on dit que à Pourim, c'était comme un renouveau du don de la Torah au Sinaï, parce que tout le peuple juif était uni. Et pour vivre ces dimensions d'union du peuple juif, c'est pour ça qu'on donne de l'argent aux pauvres à Pourim, c'est pour ça qu'on donne des cadeaux, des bonnes choses à manger à ses amis, pour exprimer une proximité des uns à l'égard des autres, qu'on est proches les uns des autres. C'est un renouveau du don de la Torah. Mais tout ça, ce renouveau, est venu parce que Mordechai, à un moment, il n'y a pas eu de conciliation. Et je crois que nous, c'est extrêmement important. Pourim, ce n'est pas toute l'année. Ouais. Toute l'année, ça s'appelle les clochards. Ouais. Toute l'année, c'est les fous. Non, justement, pour c'est la dimension... De irresponsabilité. Mais justement, l'homme a l'obligation. L'homme a l'obligation. C'est une dimension responsable à Pourim de se donner dans le service de Dieu sans conciliation. Ça, c'est le service de Pourim. Service de Pourim, on dit des cas de vérité. On exprime des choses. On n'est pas tout le temps dans le consensus. C'est un jour où il n'y a pas de consensus. Et ces dimensions, c'est pas, si vous voulez, c'est très très important parce que c'est important de... Je suis heureux d'aborder cette question avec vous parce que le totalitarisme, c'est toujours pas de consensus. Le totalitarisme, c'est, justement, c'est ça. Ouais, pas de consensus, pas de... C'est ça, le langage... immature, le langage immature, c'est de tenir des langages extrémistes, pas de conciliation, comme on a pu tenir dans notre adolescence. Ouais. Mais qu'il y ait une telle dimension, que cette dimension existe en nous quand même, qu'elle existe, et qu'il faille la préserver et l'exprimer. L'exprimer, et qu'il y a quelque chose de constructif dans cette dimension, qui n'est pas tout. C'est ce que le Talmud dit, c'est pas une dimension donnée à tout le monde. C'est pas, il n'y a pas 12 tribus dans le peuple juif, c'est une tribu dans le peuple juif. Rav Dessler dit très magnifiquement dans le Mirtav Meliaou, qu'est-ce que ça veut dire il y a une tribu? C'est-à-dire que nous imaginons qu'il y a 12 dimensions en nous. Parce que le peuple juif, ça c'est l'ensemble d'un peuple. Mais en nous, il y a aussi ces dimensions à l'intérieur de notre être, où il y a 12 dimensions. Mais à l'intérieur de ces 12 dimensions, il faut garder une dimension qui doit s'exprimer de temps en temps, où on donne la possibilité à ce qu'il n'y ait pas de conciliation. Ce n'est pas 12 dimensions sur 12, une dimension, mais cette dimension, elle doit exister. Et où est-ce qu'elle doit s'exprimer? Ça, c'est le service du jour de Pourim. Où on se donne complètement, on est même... on fait les... Apparemment, ça a l'air d'être les foufous, mais ce n'est pas les foufous, c'est un service profond. Ça a l'air d'être les foufous, mais c'est profond, c'est très profond pour eux. Très très profond. Mais si par contre, il n'y a pas cette dimension, c'est comme si en nous, il n'y avait pas le Kodesh au Kodashim. Comme s'il n'y avait pas le Saint des Saints en nous. Il n'y avait pas Ashrat Ashrina. Il manquait ce lien avec la dimension de lien avec Akash Bourou. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ça, c'est le côté ambigu. C'est le côté ambigu qu'il y a chez Mordechai. Dans Mordechai, justement, d'un côté, il vient de Binyamin, c'est très très bien, mais d'un autre côté, il vient de Yehuda, où il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Pas clair. Pas clair, mais en vérité, ça a un sens. Mais en nous, on doit arriver à donner une possibilité, en général, d'avoir une dimension, s'adapter à la réalité, comme on avait étudié plusieurs fois Bo El Paro, Dieu dit à Moshe, à Moïse, viens chez Pharaon, c'est-à-dire je suis du côté de Pharaon, c'est-à-dire tu dois prendre en compte, tu dois parler à Pharaon, mais ne pas le minimiser pour autant, c'est pas parce que tu vas dire des choses à Pharaon qu'il ne veut pas entendre, que du toi, que tu dois lui manquer de respect. Oui, on voit, donc tu dois concilier, tu prendre en compte sa force. Mais par rapport à Aman, on voit que Mordechai, lui, il n'a pas pris en compte ce pouvoir de Aman. Il a dénigré Aman systématiquement. Le Talmud dit, attention, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais cette dimension est nécessaire. Moi je dis, c'est une introduction au jour de Pourim. Pourim, justement, c'est un jour, je pense, un jour auquel il faut se préparer. Surtout que cette année, c'est un jour de semaine, c'est le jeudi. La plupart des gens bossent. C'est un jour qui peut passer complètement à la trappe. Hein. Passer Pourim comme s'il n'y avait rien du tout. On va au bureau, on boit une canette de bière, et puis voilà, on appelle un copain. Les Chaïm, bon ben, dis-moi, je suis au bureau, les Chaïm, hein, et puis voilà, et puis on a fait Pourim. Mais il faut se préparer à Pourim, se donner les moyens de vivre Pourim quelque part, sans compromission. C'est un jour, il faut y aller. Voilà, ok. Pourim Samea. Alors, au risque de me répéter, on va faire ici un repas, justement, comme je sais que la plupart de nos co-religionnaires travaillent. Alors, on va faire un repas ici pour qu'ils aient pas à se casser trop la tête de où est-ce que je fais le repas, est-ce que je fais pas le repas. À 18h, on fait le repas de Pourim ici. Voilà, ça c'est un. Et deuxièmement, on va. Donc là, on a vu en vérité, de manière approfondie, un ou deux versets. Dimanche, on va lire de manière plus linéaire la Megillat Esther au centre Frey. Voilà. Venez avec vos amis, vos copains. Ça va être super plan. Allez, bonne soirée.
Surtout ce qui est Mordechai et Aman.